Salluste, invective contre Cicéron. Je serais sensible aux injures que votre bouche vomit contre moi, Cicéron, si je devais attribuer ces emportements à la réflexion plutôt qu'à la dépravation de votre caractère. Cependant, comme votre audace n'observe ni mesure ni bienséance, je m'en vais vous répondre et vous faire entendre des vérités sévères pour tempérer le plaisir que vous trouvez à la calomnie. Mais devant quel tribunal dois-je porter mes plaintes? À quel juge, père conscrit, dois-je exposer les brigandages qui se font dans la République et les plus audacieuses trahisons? Est-ce au peuple romain, si corrompu par les largesses des ambitieux, qu'il regarde comme vénal sa liberté et son existence? Est-ce au Sénat, dont l'autorité est devenue le jouet de la perversité et du crime? C'est ici qu'on entend un Cicéron défendre les lois et les décrets du peuple romain, et qu'on voit dominer cet homme nouveau, avec le même empire que pourrait s'attribuer à un descendant de Scipion l'Africain, comme s'il n'était pas sorti des derniers rangs du peuple, citoyen adoptif et à peine reconnu dans Rome. Pensez-vous, Cicéron, que vos actions soient ignorées? Depuis votre enfance, avez-vous jamais regardé comme un déshonneur pour votre corps ce qu'un autre estimait un plaisir? Cette éloquence furieuse dont vous avez pris des leçons auprès de Marcus Pison n'a-t-elle pas été le prix de votre infamie? Faut-il s'étonner si vous vendez aux conditions les plus honteuses un talent dont l'acquisition vous couvre d'opprobre? Mais c'est peut-être l'éclat des vertus de votre famille qui vous inspire tant d'impudence. Et que voit-on chez vous? Une épouse sacrilège et parjure, une fille rivale de sa mère, trop tendrement aimée de vous, et plus docile à vos volontés que ne le permet l'amour filial. Cette maison elle-même, achetée par tant de brigandages, funeste à vous et aux vôtres, vous l'avez acquise sans doute pour nous faire comprendre jusqu'à quel point le désordre règne dans l'État, puisqu'on vous voit éviter, homme criminel, dans la maison d'un illustre consulaire de Publius Crassus. Cependant, nous entendons Cicéron se vanter d'avoir assisté au conseil des dieux immortels et d'avoir été envoyé du séjour céleste pour être le conservateur de Rome et des Romains, tandis qu'il n'est qu'un bourreau dont les malheurs de ses concitoyens font toute la gloire. En effet, cette fameuse conjuration n'a-t-elle pas eu pour motif votre consulat? Et la République n'a-t-elle pas été alors sur le penchant de sa ruine parce que vous en étiez le gardien? Mais peut-être les temps qui suivirent votre consulat vous sont-ils plus glorieux lorsque vous sauviez encore la République avec votre femme Terentia. La loi Plautia occupait alors tous vos moments. Vous condamniez chez vous les conjurés, les uns à la mort, les autres à de fortes sommes. L'un vous servait à bâtir votre maison de Tusculum, l'autre celle de Pompéi, un troisième à acheter un palais. Mais celui qui ne pouvait rien faire de semblable était bientôt convaincu de crime. C'était le brigand qui était venu assiéger votre maison, qui avait conspiré contre le Sénat. Enfin, vous l'aviez découvert. Si ces accusations sont fausses, exposez vos comptes au regard du public. Voyons quel patrimoine on vous a laissé, combien les procès vous ont valu, sur quel fonds vous avez acheté votre maison et fourni à cette folle magnificence de Pompéi et de Tusculum. Si vous gardez le silence, faudra-t-il douter que toute cette opulence ne soit cimentée du sang et des larmes de vos compatriotes? Mais que dis-je, cet homme nouveau sorti d'Arpinum, allié à la famille de Caius Marius, imite son noble courage, méprise la haine des grands, ne chérit que la chose publique. Il est inaccessible aux menaces et à la faveur. Il ne connaît que l'amitié et la vertu. Et que vit-on jamais dans ce parvenu qu'un homme sans caractère, rampant devant ses ennemis, insciant envers ses amis, flottant sans cesse entre tous les partis et infidèle à tout le monde, sénateur inconstant, orateur mercenaire et déshonoré par tous les vices, parleur frivole, spoliateur avide, gourmand insatiable, lâche, toujours prêt à fuir, homme infâme, dont tout le corps semble dévoué aux plus odieuses turpitudes. Et cependant, couvert de tant d'opprobre, il osa dire ô Rome fortunée, sous mon consulat né. Quoi ? Sous votre consulat, Cicéron, la République fortunée ? Oh, dites plutôt malheureuse, désolée. N'est-ce pas alors qu'elle a vu une cruelle proscription de ses citoyens, lorsqu'au milieu du trouble général, la terreur répandue parmi tous les gens de bien les rendait malgré eux esclaves de votre tyrannie, lorsque tous les tribunaux, toutes les lois ne servaient que les caprices, les vôtres, lorsque, violateurs de la loi Portia, vous nous enleviez la liberté et vous proclamiez le seul arbitre de la vie et de la mort de chacun de nous. Mais c'est peu pour vous d'avoir commis ces attentats publics. En ne cessant de les rappeler, vous semblez accuser votre faiblesse. Vous ne voulez pas qu'on oublie mon esclavage. Soyez content, Cicéron. Soyez content de ce que vous avez fait. C'est assez pour nous d'avoir passé par ces temps malheureux. Pourquoi fatiguer nos oreilles de votre odieuse gloire? Pourquoi nous importuner de ces paroles que Mars cède à la paix et les lauriers à l'olive? Comme si, à cette époque dont vous êtes si fier, vous ne vous étiez pas fait précéder d'une fer assassin plutôt que du signe chéri de la paix. Comme si, entre vous et le dictateur Sylla, on avait vu d'autres différences que celle du nom de la tyrannie. Mais pourquoi m'étendre davantage sur votre insolence? Puis-je oublier que c'est Minerve elle-même qui vous a enseigné tous les arts, que Jupiter vous a admis dans le conseil des dieux immortels, que l'Italie vous a porté sur ses épaules à votre retour de l'exil. Dites-moi, Romulus d'Arpinum, supérieur par votre génie au Paul, au Scipion et au Fabius, quelle est votre place dans cette république? Quel est le parti que vous affectionnez le plus? Quel est votre ami? Quel est votre ennemi? Vous voilà l'esclave de celui que vous vouliez faire périr dans Rome même. Et de quel droit, depuis votre exil de Dyrrachium, le suivez-vous? Nous vous voyons caresser l'autorité de ceux que vous appelez tyrans. Et ceux qui vous paraissent les premiers citoyens de l'État sont maintenant pour vous des insensés et des furieux. Quoi? Vous plaidez pour Vatinius et Sextus n'est plus votre ami? Bibulus est devenu l'objet de vos sarcasmes, et César est votre héros. Vous faites votre idole de celui que vous détestiez. Ainsi vos opinions politiques varient selon que vous êtes assis ou debout. Vous calomniez les uns, vous haïssez les autres. Vous changez de parti sans scrupule, infidèle également à tous les partis.